des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Here comes Huston! Here it comes Huston, says Red Cashin.
Right on cue, Joe.
On est de retour à la zone payante. On est dans notre match qui débute. C'est le premier essai. Et Jean, ce qu'on vient d'entendre, c'est Aaron Rodgers qui nargue les partisans des Bears. Est-ce qu'on a vu est-ce que c'était un peu le dernier adieu d'Aaron Rodgers aux partisans des Bears au Soldier Field en fin de semaine qu'on a vu?
Ben, c'est pas impossible. Lui-même s'est fait poser la question après la rencontre. Puis il a dit, je pense pas que c'est ma dernière ici. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est.
Raconte-nous un peu le contexte dans lequel tout ça est arrivé.
Ben, écoute, c'était évidemment le match est serré. Les Packers sont en fin de match. Les Packers mènent par 3. Donc, évidemment, Aaron Rodgers, sur un jeu, comme il a souvent l'habitude de faire, prolonge le jeu. Les demi-défensifs sont tout près de la zone début. Les demi-défensifs restent évidemment très près là, de leur receveur. Aaron Rodgers décide de courir. S'en va, il vise le coin de la zone début, atteint la zone début, donc ça met le match hors de portée, mène par plus que 8 points, donc 2 possessions, il restait peu de temps. Puis là, lui, il dit qu'il a vu une partisane des Bears lui donner le bon vieux finger, les gars. Puis ça a l'air, il a dit c'est un double flipping the bird. Fait que il s'est fait
deux mains.
C'est les deux mains, il s'est fait envoyer promener. Puis il dit, une switch a tout simplement viré. Il dit, je sais pas trop ce que j'ai dit, ce qui s'est passé dans ma tête, mais il dit, je voulais leur signifier que c'était encore moi le boss ici.
Mais ça envoie un autre message, moi, je trouve aussi, d'Aaron Rodgers cette saison, c'est que...
Il est en mission aussi, là.
C'est ça. C'est que là, on l'a vu, c'est comme si sa saison démarre, là. Et on dirait que les partisans des Bears ont allumé, là, ont soufflé sur les braises là, d'Aaron Rodgers, puis là, il est reparti.
Écoute, pour ceux qui... C'est qu'Aaron Rodgers aussi, pour les partisans qui sont pas nécessairement au courant, c'est un torsionnaire absolument extraordinaire des Bears. Il est 22 victoires, 5 défaites en carrière contre les Bears. Lui, ce qu'il a dit, ben évidemment, c'est « I still own you ». C'est encore moi le patron aussi. Là. C'est ça que ça voulait dire. Puis moi, j'ai eu un flash, les gars, quand j'ai vu ça. Puis c'est l'an passé, avec les stades vides. Tu sais, j'aimais ça voir la NFL, mais c'était-tu plate?
C'était pas pareil. Là.
C'était pas pareil.
Il y a rien qui vaut ce qu'on voit actuellement.
Non, puis c'est ça. Là, les stades remplis, ça fait tellement du bien. Puis moi, j'ai trouvé que la scène était parfaite. Il y en a qui aiment pas ça nécessairement. Il aurait peut-être dû... il a quand même gagné le match. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Aussi, c'est le fait que si tu veux démontrer un peu d'arrogance, souvent, il faut que tu montres l'exemple. Puis Aaron Rodgers, il le fait match après match au niveau performance. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Puis à la limite, c'était drôle un peu, sauf un peu moins si t'es partisan des Bears.
Il faut savoir aussi que Bears-Packers, là, c'est une rivalité qui date pas d'hier. C'est la plus vieille rivalité dans la NFL. Fait que tu sais, c'est de bonne guerre un peu, là, le dialogue comme ça, si on peut dire, entre les partisans puis les joueurs, tu sais, faut pas s'en étonner. Puis là, qu'un joueur réplique une fois, tu sais, je trouve ça juste, c'est un clin d'œil, en fait, là. Intéressant encore plus dans la rivalité.
OK, deuxième essai, Steph, on y va avec toi.
Ouais.
Là, c'est drôle, depuis quelques années, j'ai l'impression que les coachs, ils vont encore... C'est comme Chip Kelly qui a commencé un peu à y aller à 4 et 2 et 3 et 4 même. Là, on dirait que de plus en plus, les coachs, ils vont en quatrième essai. Pas juste à mi-terrain ou pas juste dans le territoire offensif. Là, ils prennent des décisions très risquées. Des fois, ça s'avère des décisions coûteuses.
Oui, c'est sûr. Des fois, ça s'avère coûteux, mais la logique est simple derrière cette réflexion-là, parce qu'effectivement, on en voit de plus en plus. C'est qu'il y a plus de chances que ça fonctionne que de chances que ça fonctionne pas, tout simplement. Écoute, depuis 4 ans, des quatrièmes essais et un. Tu sais, je te parle pas de quatrième essai et sept là, dans une cause désespérée en fin de match quand il faut absolument que tu l'ailles. Mais depuis 4 ans, quatrième essai et une verge, 68% des conversions sont réussies. C'est pas rien. Là. On parle pas d'un pourcentage minime à 51 ou 52 où tu te dis c'est presque un coup de dé. Tu sais, c'est presque 7 chances sur 10 de réussir. Donc, les coachs se sont mis à arrêter de suivre le livre qui disait « quatrième essai, peu importe, tu dégages ». Les chances que ça rapporte un gros, gros coup, on l'a vu depuis le début de la saison avec les Chargers, même si cette semaine, ça s'est retourné contre eux, là, c'est vraiment plus important que les chances de rater. Puis, tu parlais là, que c'est partout sur le terrain, puis ça, c'est vrai. Profondément dans leur zone, ça s'est pas encore vu, mais on voit là, quand même à la ligne de 20, à la ligne de 24, des équipes dire « ben non, j'y vais ». En se disant, je sais pas, moi, tu dégages, il y a un retour de 10-15 verges de l'autre côté. Ils sont déjà à 20 verges d'une situation de placement des fois. Donc, il y a de plus en plus de coachs qui voient ça comme ça là, et non plus comme la bonne vieille bataille du placement, du positionnement sur le terrain. Là.
Ouais.
Puis, si tu amènes la question, ben, j'imagine que c'est aussi en lien avec... le cas des Bills, là,
bien sûr. Lundi, les Bills qui ont décidé d'y aller à 4-1 alors qu'ils auraient pu égaliser le match avec un placement dans les dernières secondes du match.
Bon, c'est ça. T'as bien résumé là, comment ça se passait à ce moment-là. Puis il y en a beaucoup qui sont en train de lancer des rushs à Sean McDermott en disant « t'aurais dû aller chercher les 3 points ». Je comprends, mais si Josh Allen réussit la faufilade du corps, ben soudainement, McDermott, c'est un génie. Donc, j'ai de la misère en ce moment, moi, à envoyer les coachs aux poubelles quand ils vont sur un quatrième essai et court. Écoute, la décision des Bills, plus spécifiquement, puisqu'on en parle, en carrière, Josh Allen avait 13 conversions en 14 tentatives lors de courses sur des quatrièmes et 1. 13 en 14. La seule fois que ça avait raté, c'est pas lui qui avait raté son coup, là, c'était une mauvaise remise en 2018. Puis tu sais, Allen, des faufilades du corps, il en a fait une puis une autre. Là. Depuis 2018, il en a réussi 24 qui ont donné des premiers jeux. C'est un sommet. Il n'y a pas un autre corps dans la ligue qui en a fait plus. Là. Donc, les chances que ça rate, honnêtement, étaient infiniment minces. Ça a raté. Mais moi, j'aime ce que McDermott a dit après le match. Là. Il a dit, écoute, si tu étais à refaire, ce serait exactement la même chose.
Ben oui, je pense que la décision était bonne.
L'exécution ne l'était pas.
Mais... Exact.
On se pose toujours la question, par exemple, si ça avait été le match du Super Bowl, est-ce qu'il aurait fait le même call?
Ben là, c'est une excellente question, puis ça va dépendre
Parce que c'est facile de caller 4-1 quand t'es 4, ouais. Quand t'affiches en quatrième essai, quand t'affiches 4 victoires, une défaite, puis que la saison est longue, tu as le temps de te reprendre.
C'est un bon point que t'amènes, puis je pense honnêtement que les coachs sont capables d'avoir du contexte là, dans leurs décisions. Tu sais, je vais laisser Jean qui semblait avoir un point, mais je suis convaincu que ces gars-là le font dans un contexte qui leur permet de croire avec les données analytiques dont ils disposent maintenant que c'est la chose à faire au Super Bowl. Est-ce que ce sera les mêmes décisions? Ben, tu sais, on est permis d'en douter, là. Mais actuellement, dans la saison, là, on va le voir puis on va le voir de plus en plus.
Exact. Mais le point que je voulais amener, c'est souvent ces situations-là sont discutées à l'avance. C'est pas pendant le match à chaud que la décision se prend. La décision a été prise bien avant. Eux, ils ont évalué, les entraîneurs évaluent toutes les situations possibles, puis dans lesquelles on y va, dans lesquelles on y va pas. Puis il y en a beaucoup qui, évidemment, se basent sur les données analytiques pour le faire. Donc, c'est souvent des décisions qui ils s'enlèvent tout simplement le côté émotion du match parce que c'est décidé à l'avance. Des fois, par contre, il y a des petites choses aussi qu'il faut prendre en ligne de compte pendant un match. Dans le cas ici, souvent en prolongation, ben c'est sûr que tu as le côté hasard du lancement là, de la pièce qui va décider qui va avoir le ballon en prolongation. Puis de la façon qu'Henry courait, ben c'était pas clair que les Bills auraient eu le ballon de nouveau. Là. Que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Puis moi, je veux juste dire que où est-ce que ça a parti un petit peu, j'en ai que tu as mentionné Chip Kelly. Oui, Chip Kelly, ça a été une des personnes qui a été agressif là-dedans puis qui a fait changer un peu les mentalités, mais c'est pas le seul. Puis le premier vraiment qui a changé ça, c'est un coach du secondaire qui s'appelle Kevin Kelly en début des années 2009-2010, même un peu avant ça. Lui, il coach en Arkansas, puis il vient d'une petite école secondaire, puis il y avait des petits joueurs, puis se demandait comment prendre avantage avec ces petits joueurs, tu sais, pour les aider à gagner. Ben écoute, lui, il a décidé de plus jamais botter.
Ouais, je me souviens de cette histoire-là.
Ouais, ben c'est ça vient de lui tout simplement. Avec lui, c'est le coach qui botte pas tout simplement, qui va pour deux à toutes les occasions, et aussi qui fait des bottes courts à chaque fois qu'il peut le faire. Donc c'est comme ça que lui il a réussi à quand même gagner 9 titres en 18 saisons avec cette mentalité-là. Puis il a été étudié beaucoup par les coachs de la NCAA, puis beaucoup également par les coachs de la NFL. C'est quand même pas rien. Quand t'es un petit, tu sais, quand t'es un entraîneur du secondaire, puis il y a des gars comme Bill Belichick qui vient te voir pour savoir c'est quoi ta stratégie, puis pourquoi tu fais ces choses-là. Il y a beaucoup de coachs de la NFL qui sont allés le voir directement là-bas. Là. Donc c'est un peu parti de là. Changement de mentalité, ça se fait pas du jour au lendemain, mais selon moi, c'est une des personnes qui a vraiment aidé à changer un petit peu le fil, puis la façon de penser.
Puis tu vois, on critique les coachs qui sont allés là, cette semaine pour des quatrièmes essais qui n'ont pas fonctionné, mais tu prends le contraire. Bill Belichick puis les Pats, justement, puisque c'est un nom que tu amenais comme ça, ils ont eu quatre situations contre les Cowboys, un match très serré, là, quatre situations de quatrième essai et quatre verges ou moins à faire. À chaque fois, ils ont dégagé. Puis ce que ça a donné, c'est que trois de ces quatre dégagements-là ont résulté en points des Cowboys tout de suite sur la séquence d'après. Donc, il y a un risque aussi là, à dégager dans des situations de quatre et court.
OK. Troisième essai maintenant, les gars. On s'en vient, on s'approche en tout cas de la date limite des échanges. Là, dans la NFL, évidemment, la date limite des échanges, on dirait que plus les années avancent, plus il y a des échanges, parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à suivre la NFL, là, j'apprenais que la date limite des échanges, c'était hier. Là,
ouais, il n'y avait rien, il n'y avait jamais.
Il ne passait pas grand-chose. Là, on dirait qu'il y a de plus en plus, là, il y a un petit peu d'effervescence. Il y a des équipes qui voient des opportunités puis qui attendent plus au repêchage pour faire des échanges. Et là, on va avoir 6 semaines de passer, 7 semaines, 8 semaines, puis on va devoir prendre des décisions. Qui sera les équipes qui vont devoir mettre un peu le pied sur l'accélérateur pour espérer se rendre en série puis peut-être remporter le Super Bowl? Puis qui devra oublier ça pour cette année? Puis qui ont du matériel à échanger?
Une des personnes que on entend beaucoup de rumeurs présentement, c'est les Browns puis Odell Beckham Jr. Dans le cas des Browns, on entend des rumeurs, pas nécessairement parce que c'est pas un club de playoff, quoique là, ils sont un peu dans le trouble parce qu'ils jouent 500 puis ils sont très maganés. Mais dans le cas d'Odell Beckham Jr., on se demande vraiment s'il est si important que ça dans l'attaque des Browns.
Mais il vaut-tu encore quelque chose?
Ben oui, honnêtement.
Il y a une valeur.
S'il est en santé, c'est plus ça aussi, parce que lui aussi, il a été souvent blessé.
Je fais juste une parenthèse, mais on dirait que des fois, on se surprend comment que les joueurs dont on connaît bien le nom, dont ils ont eu des grandes années puis qui sont encore jeunes, mais finissent à être échangés pour un choix de cinquième ronde.
Oui, mais ça dépend toujours de la valeur réelle. Mais tu sais, moi je regarde qui pourrait être acheteur. Ben, il y a plusieurs clubs qui pourraient être acheteurs pour Odell Beckham Jr. Surtout si ça coûte pas un bras puis une jambe. Mais tu sais, puis il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Packers pourraient être intéressés. Mais là, fait juste imaginer un duo avec Aaron Rodgers, avec d'un côté Devontae Adams, avec Odell Beckham Jr. de l'autre côté, ben évidemment, ça en fait saliver déjà plusieurs. Puis moi, je pense que dans un système où ce qui est, je pense qu'il est un peu plus offensif au niveau aérien, ça pourrait favoriser justement le retour d'Odell Beckham Jr. en force. Ben, c'est sûr que c'est à considérer, là. Ceci étant dit, il y a quand même d'autres joueurs, d'autres concessions aussi là, qu'il faut regarder. Moi, je regarde les Vikings. Les Vikings, pour moi, ont une excellente équipe. Ils ont besoin de renforts un petit peu à certains endroits. Est-ce qu'ils vont être acheteurs? Est-ce qu'ils vont être vendeurs? Ils jouent 500. Je pense qu'ils sont revenus.
Ils jouent 500, puis on le dit depuis le début, ils devraient être même mieux positionnés que ça encore.
Exact. Donc, eux, ils pensent certainement qu'ils ont peut-être accès aux séries. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce club-là. Je suis certain que Stéphane, t'as d'autres suppositions également.
Oui, ben c'est ça, tu sais. Premièrement, date limite des échanges là, pour le bénéfice de ceux qui se posent la question, c'est le 2 novembre à 16h. Fait que ça s'en vient à grands pas. c'est quand même rare. Il y a eu des mouvements dans les dernières années, des échanges intéressants, mais des échanges qui ont complètement transformé un club, ça arrive plus si souvent que ça, là, quand même. Parce que ça demande un temps d'adaptation aux joueurs qui arrivent dans sa nouvelle équipe. Là. C'est comme, on voit beaucoup, est-ce que les Texans vont échanger de Sean Watson? Possible, mais moi, je continue de croire que ça se fera pas là, en pleine saison, alors qu'il y a des démêlés avec la justice dont on ne sait pas encore les issues. Ça reste à surveiller. Il y a des clubs, là, évidemment, moi, je pense aux Texans qui pourraient vendre le peu de ressources qu'ils ont. T'sais, si les Texans, par exemple, décidaient d'échanger Brandon Cooks, bon, en ce moment, il est en santé, ce qui n'a pas été toujours le cas. Sa valeur est quand même bonne parce qu'il continue de produire des chiffres intéressants malgré la piètre qualité de cette équipe-là autour. Est-ce qu'un club comme les Chiefs, par exemple, pourrait dire, nous autres, on a moins de profondeur au poste d'ailier espacé en arrière de Tyreek Hill, on a perdu Sammy Watkins, est-ce que ça pourrait être un complément? Il y a des histoires comme ça là, qui peuvent arriver. Je vois un club comme les Cowboys qui ont une grosse équipe. On voit
qu'est-ce
les
qui leur manque, les Cowboys, pour le fun?
C'est ça, on voit les exploits de Trevon Diggs, mais ça masque le fait que la tertiaire est pas super dominante en dehors de lui.
Faudrait pas que ça lui monte à la tête non plus, Diggs, là, de faire des interceptions, parce qu'il reste qu'il s'est fait battre quand même plus tout de suite après pour avec un double move. Là. C'est un jeune, ça reste un...
Ouais, ben c'est ça, c'est un joueur de deuxième année, fait que, t'sais, à un moment donné,
il faut de l'expérience un peu.
C'est sûr qu'il va se faire déculoter à tout bout de champ quand même. Là. Fait que, t'sais, de l'aide dans tertiaire, les Cowboys, moi je dirais pas non. Puis je vois les Chargers aussi, mais t'sais, on voit des situations maintenant, c'est d'aller trouver le bon joueur. Les Chargers, qui ont encore une bonne équipe, moi je me laisse pas berner là, par la défaite écrasante qu'ils ont subie, ça reste un bon club. Mais il manque vraiment quelque chose au niveau de la défensive contre la course. Mais maintenant, les Chargers, ils commencent à peine une fenêtre là, dans laquelle ils vont dominer là, pendant les prochaines années. Est-ce que tu vas hypothéquer ton avenir tout de suite à ta première année de ta fenêtre pour aller chercher un gars? Il y a toutes ces questions-là compliquées qu'il faut que
les équipes mais je vous en pose une autre question. Moi, si les 49ers perdent contre les Colts en fin de semaine, est-ce qu'ils deviennent des vendeurs ou des acheteurs, les 49ers?
Qu'est-ce qu'il faut avec Jimmy G? Ouais, ben là, Jimmy G encore là, il n'y a pas beaucoup d'équipes, là, Jean-Nic, qui vont faire des moves pour un corps arrière en pleine saison. Tu sais, on lisse souvent là, des grandes listes de rumeurs à gauche, à droite, puis ça finit qu'à date limite, ben, il y a quelques moves, mais c'est quand la dernière fois qu'un corps arrière d'importance a été échangé? C'était lui, justement, là, il y a quoi de cela, 5 ans environ? Puis sinon, il faut que tu remontes à Carson Palmer l'année qui avait été échangé aux Raiders. Ça remonte à loin. C'est pas souvent qu'on voit ça, particulièrement un corps arrière là, en cours de route.
Puis il faut qu'il y ait une demande aussi pour Jimmy G. Je suis vraiment pas convaincu qu'il y a une demande présentement pour lui. Là.
Non, exact.
Puis si on s'en va, mettons, en Caroline. Là, la Caroline, on dirait qu'il y avait un début de saison qui était optimiste. Puis là... ça s'en va pas dans le bon sens. Est-ce que eux aussi de. Parce que McCaffrey, à un moment donné, aussi, c'est un excellent joueur qui pourrait avoir une grande valeur pour rebâtir, pour commencer une reconstruction sérieuse.
Oui, encore là, il a été blessé toute l'année passée, il a joué 3 matchs. Cette année, ça commence à être inquiétant aussi. Ils viennent de le mettre sur le injury reserve, c'est-à-dire qu'il va rater au moins les 2 prochains matchs. Il y a une tendance lourde là, qui est en train de s'installer. T'sais. Je veux pas être rabat-joie sur les échanges. Il y a plein de noms qu'on verrait s'en aller à gauche, à droite, renforcer d'autres équipes. Mais la réalité, c'est que ces équipes-là vont regarder un Christian McCaffrey se dire, OK, on a le potentiel de mettre la main sur un joueur dominant, mais qui a pas été disponible beaucoup dernièrement. Là. Est-ce qu'on s'en va prendre ce risque-là puis donner un choix de première ou deuxième ronde, là, exemple? Il y a vraiment des questions à se poser.
Parce que une équipe comme les Cardinals d'Arizona, mettons, là, est-ce qu'ils sont confiants avec Chase Edmonds qu'ils peuvent se rendre jusqu'au Super Bowl puis battre des équipes comme Tampa Bay pour se rendre à leur objectif? Ça va leur prendre de l'aide au sol, eux autres aussi.
Ben la formule actuellement, là, c'est un peu ce que les Chiefs faisaient en 2019, c'est-à-dire on a un comité de porteurs, là, eux autres, tu vois, c'est James Conner puis Chase Edmonds. Ça fonctionne relativement bien. C'est pas le principal ingrédient de l'attaque de l'équipe, là, disons-le comme ça. Mais est-ce qu'ils voudraient absolument augmenter là, leur production dans le champ arrière, peut-être, mais ça n'a pas l'air d'être une équipe construite en ce moment pour aller en ce sens-là. Fait que c'est la décision qu'il faut qu'ils prennent. Est-ce qu'on change un peu notre vision des choses en plein dans une saison où on est invaincu et que tout va bien, ou on reste avec la formule actuelle, avec un champ arrière en comité où les choses se passent pas nécessairement mal. C'est peut-être pas dominant, mais ça va bien. Il y a beaucoup d'équipes dans ces cas-là qui vont opter pour le statu quo.
Puis dans le cas des Cars, faut pas oublier que Kyler Murray prend une part aussi de lui de l'attaque au sol.
Mais est-ce que ouais. C'est ça que tu veux aussi comme coach? Là, t'sais, faut que tu le protèges si tu veux lui faire jouer 17 matchs puis des matchs de série.
C'est un passé du bien, mais moi, je pense que dans le cas des Cards, la façon que l'attaque est faite, il faut que tu assures un minimum au niveau de l'attaque au sol. Puis je pense que c'est ça qu'on voit présentement. Donc, j'ai pas nécessairement de problème un peu avec ça. Mais c'est sûr que t'sais, si tu leur dis, ben écoute, on va vous donner un CMC pour pas grand-chose, il n'y a pas un club.
Non, c'est sûr.
Il n'y a pas de club d'NFL qui ne pas en main.
Là. Dernière question là-dessus, les Rams, leur attaque semble être très électrisante. Là, puis je comprends qu'ils ont eu un bon match en fin de semaine, mais est-ce que leur défensive peuvent les mener aux grands honneurs aussi? Est-ce qu'il y a de la concurrence, ils ont de la compétition là, autour d'eux? Là.
Oui.
Là aussi, ils ne devraient pas investir un peu dans la défensive pour se rendre au Super Bowl.
Ben moi, je pense qu'ils ont déjà investi présentement. C'est juste que la défensive ne joue pas à son plein potentiel encore, selon moi. Je pense que c'est dans les clubs les mieux équilibrés de la NFL, comme on a déjà parlé. Fait que moi, je ne vois pas nécessairement de problème présentement. Ils ont des blessures un peu dans la tertiaire et dans la défensive. C'est ça que je pense, selon moi, qui explique un petit peu le rendement qui est un peu inférieur. Mais j'ai pas vraiment de problème là, quand tu regardes l'alignement. Puis dans le cas des Rams, ils peuvent pas donner grand-chose à part des joueurs parce que ouais. Les joueurs pêcheurs,
ils n'en ont plus.
Ils n'en ont plus. Là,
parce qu'ils ont tout donné justement pour des joueurs d'impact. T'sais, ils l'ont fait eux autres, le gros move avec Jalen Ramsey il y a quelques années. Il
ouais.
Y a un moment donné, tu peux pas te permettre de faire ça chaque année. Il y a une banque de choix. Puis écoute, s'il te reste un choix de quatrième ronde à donner, tu vas avoir quoi pour ça? Là? Ouais. C'est pas dit que tu vas avoir un joueur d'impact.
OK, merci les gars. On va se laisser là-dessus. On va revenir après la pause pour notre quatrième essai. Et on va rejouer à notre jeu de la semaine passée que vous avez tant apprécié. Que diriez-vous à Bougez pas?